la musique.
Caravana de maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du.
Sorry, 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 sorry. Sorry, 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 sorry.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive mon pain, vive le soleil.
Vive les oreilles.
Libre.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde. Radio-libertaire.net, partout ailleurs, à Marseille par exemple. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, émission consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuses. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Fanny Lafargue. Bonjour.
Salut.
Bonjour Fanny. Alors on vient d'écouter le trio Q. Et le morceau s'intitulait Plantes, part 4. Et on en parlera plus tard, un petit peu plus tard, donc dans peu de temps. Mais d'abord, je voulais savoir si la basse a été ton premier instrument et pourquoi avoir choisi cette famille d'instruments.
Alors, donc c'est pas mon premier instrument. Il faut savoir que moi, déjà, j'ai mon père qui est musicien, qui est saxophoniste, qui est musicien professionnel. Bon, qui est, il est retraité maintenant, même s'il joue toujours, mais voilà. Et du coup, il y a toujours eu de la musique à la maison. J'ai mon grand-père maternel aussi qui jouait de la guitare, de l'harmonica, qui était autodidacte. Mais voilà, on jouait de la musique à la maison, quoi, ça c'est clair. Et mon père, il m'a mise au piano quand j'avais 6 ans. Voilà, donc j'ai commencé par le piano, parce que pour lui, c'était un instrument qui avait un accès plutôt facile au départ, qui me permettait d'apprendre à lire plusieurs clés en même temps. Enfin voilà, pour lui, c'était tout bénef. Et puis en fait, après ça, bon, j'ai beaucoup aimé cet instrument, hein, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours voulu, c'était les percussions, la batterie qui me branchait. Et j'ai jamais pu vraiment me lancer là-dedans parce que voilà, du coup, je rentre des trucs plus personnels. Mais moi, j'ai un problème d'audition, je suis sourde de l'oreille droite depuis l'âge de 4 ans. Et du coup, ça les faisait un peu flipper, mes parents, que je me mette un instrument avec un volume sonore comme ça, assez puissant, parce que voilà, ils voulaient préserver mon audition. Donc du coup, bon, je suis au piano, et quand je rentre au collège musical, où il y a vraiment un gros programme de musique intégré au programme scolaire, quoi, genre... Je sais plus, mais genre 6 heures de solfège par semaine, 4 heures de chorale, 4 heures d'orchestre. Enfin voilà, c'est vraiment bien chargé. Et pour jouer dans l'orchestre, tous les petits pianistes devaient choisir un autre instrument. Moi, à ce moment-là, j'ai donc mon père à la maison qui joue plein d'instruments avant. Donc j'ai pas du tout envie de faire comme lui. En plus, les instruments transpositeurs, moi qui ai l'oreille absolue, je l'entends souffler, chanter ses phrases à la maison en mi bémol et en si bé. Donc pour moi, c'est genre, ça me vrille complètement le cerveau, je trouve ça insupportable. Donc déjà, je voulais pas d'instrument transpositeur, je voulais pas souffler dans un truc. J'ai toujours aimé les sons graves, ça manquait de contrebasse dans l'orchestre. J'ai essayé la contrebasse, ça m'a plu, voilà, je me suis lancée là-dedans. Et puis j'ai pas du tout anticipé le fait que moi aussi je serais musicienne professionnelle et que je serais en galère avec un instrument qui fait 3 fois ma taille. Enfin bref, j'exagère un peu, mais voilà. Et donc du coup, ouais, la contrebasse classique, hein, tout ça évidemment, piano classique, contrebasse classique à l'âge de 11 ans. Et puis à l'adolescence, forcément, comme j'écoutais déjà aussi plein d'autres choses, je demande à un anniversaire, un Noël, je sais plus, une basse électrique. Donc j'ai ma première basse électrique qui est une Squier, qui est grosso modo une sous-marque de Fender, quoi, un peu une réplique de jazz bass, voilà, à l'âge de 13-14 ans, le premier groupe de rock, tout ça. Et puis là c'est parti, je commence les musiques actuelles. Et puis le jazz, ça arrive plus tard, quoi. Quand je suis au lycée, je commence à prendre des cours de jazz.
Voilà. Justement, tu as une formation donc classique ?
Ouais, j'ai une formation classique, académique, à base de médailles d'or, de machin, ouais.
Et après, justement, tu as un peu parlé de tes goûts, mais c'était quoi ? Tu peux préciser ? Tu écoutais adolescent du rock, j'imagine ?
J'ai écouté beaucoup de hard rock. J'ai eu une petite période hard rock. Mais ce qui m'a beaucoup porté et ce qui me porte aujourd'hui encore, clairement, j'ai une empreinte de Nirvana chez moi qui est assez forte. Mais du coup, ouais, c'était plutôt rock, grunge. Après, c'était aussi l'émergence des premiers dance machines, quoi, dans les années 90, quand j'étais ado. Donc, on mettait ça dans les booms. Et c'est un peu ça qui a... Alors, c'est de la mauvaise dance, hein, les dance machines, mais c'est un peu ça qui a commencé à réveiller mon oreille à tout ce qui est électro, beat, voilà. Et après, là, j'ai creusé des choses bien plus intéressantes plus tard. Mais en tout cas, il y a eu ça. Et puis j'écoute aussi déjà un peu de reggae, un peu de musique africaine, mais plus tranquillement. Et toujours beaucoup de musique classique, quoi, ça, pour le coup. Voilà.
Mais alors, tu évolues, et c'est pour ça qu'on t'invite, nous, plutôt ici, dans des domaines de musique plus...
Singulière. Singulière. Moi, j'aime parler de musique libre.
C'est bien aussi. Mais alors, comment tu viens à ces musiques-là?
Comme je te disais, j'ai commencé le jazz au lycée, donc avec un prof de contrebasse qui m'a mis des grilles sous les yeux. Et alors là, c'est une espèce de pied dans le vide pour moi, parce que il y a pas de partition, quoi. Il y a pas de notes à jouer. Donc moi, j'étais dans un rapport à la musique où soit je lisais une partition. Soit je jouais avec des potes dans des groupes de rock où là j'avais à relever les lignes de basse, machin. Donc pour moi, tout était balisé. Donc déjà, ça commence par l'apprentissage du walking bass où grosso modo, il faut faire avec des contraintes qui est de mettre une note sur chaque temps et dans une harmonie définie. Il faut déjà trouver de la liberté là-dedans et un discours qui soit autonome et qui soit cohérent, quoi. Donc voilà, ça c'est mon premier rapport à la liberté, à l'improvisation, même si quand on lit une partition, il y a quand même une liberté d'interprétation. Mmh. Et donc après, quand je rentre à l'École nationale de musique de Hyères dans le 91, là, j'ai mes premiers cours d'impro libre, en fait, avec Patricio Villarroel. Et où là, du coup, c'est vraiment une porte qui s'ouvre où je fais quel terrain de jeu complètement génial. Où déjà, je me rends compte qu'en fait, mon instrument, il a bien plus de possibilités que de jouer des sons tempérés, quoi, des hauteurs de notes finalement, parce que j'avais pas fait autre chose jusqu'à ce moment-là. Donc, du coup, je pars en exploration de l'instrument, ça c'est le gros kiff, et puis aussi un réservoir de... Déjà une connexion avec les gens, parce que pour jouer ensemble, faire quelque chose de cohérent, sans contrainte, en fait, musicale, donc genre juste on y va, ça demande une connexion et une écoute qui est, même si on l'a développée avant, là, qui rentre dans un autre rapport, et c'est assez nouveau. Et en fait, c'est là que je me dis que... je me sens vraiment bien à cet endroit-là, quoi, et où ça prend du sens pour moi... Encore plus d'être musicienne, même si à ce moment-là, j'ai déjà décidé que je serais musicienne professionnelle. Quoi.
Alors, tu étais dans les premières formations du collectif Coax, quand nous les recevions à l'époque avec notre ami Laurent Pascal, avant que tout le monde en parle et avant qu'il soit connu. Je tiens à le rappeler quand même, une petite parenthèse. Les amis venaient dès les années 2008, je crois, 2010, c'est sûr.
Grosso modo, un truc comme ça. Ouais.
Et alors, donc, tu as joué dans Pipeline, qu'on écoutera plus tard, Q, qu'on a écouté en début d'émission, Rétroviseur également.
Ouais.
Donc, j'ai tous ces CD.
Bien.
Et je veux savoir, comment as-tu intégré ce collectif et en étais-tu un des membres fondateurs?
Alors, grosso modo, Coax, c'est avec les copains du CNSM, du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Le premier initiateur de Coax qui a un peu quitté le navire pour mener sa barque ailleurs. Maintenant, c'est Benjamin Flamand, en fait, qui est initiateur de ça à la base, qui nous réunit parce que on évolue tous déjà dans des groupes qui ont développé un langage improvisé commun, on va dire ça comme ça, où à la fois il y a de l'écriture et à la fois vraiment il y a de l'improvisation. Dans un langage qui est identifiable vraiment au groupe. On a développé ça et on se retrouve à un endroit, il y en a qui sont encore au CNSM à ce moment-là, on se retrouve à un endroit où on a envie de jouer et en fait on a envie d'être représenté, on ne sait pas trop comment, donc on se dit on monte notre collectif en fait pour représenter, promouvoir notre musique et l'association, elle se monte comme ça. C'est Benjamin Flamand qui réunit les gens et puis dans le bureau rapidement va y avoir du coup Yann Joussin, Antoine Viard, Julien Després et qui sont toujours là et puis il y aura aussi qui arrive un tout petit peu plus tard Simon Enoch qui est voilà du coup Simon Antoine Yann et Julien c'est vraiment les quatre qui tiennent la baraque de Coax maintenant depuis des années et moi à la première réunion Coax chez Benjamin Flamand je m'en souviens encore de cette réunion j'étais là donc Je me suis investie à ma manière dans ce collectif. À ma manière, ça veut dire que j'étais présente sur tous les événements, soit en tant que musicienne, soit en tant que bénévole, parfois les deux. Par contre, c'est vrai que moi, je renacle la matelée à l'administratif. C'est vraiment pas mon dada. Donc tout ce qui était dossier, tout ça, voilà, j'étais pas dessus. Mais c'est comme ça que ça commence, en fait. C'est juste, on a des groupes tous ensemble. Et puis, ben, on a envie d'avoir une structure pour représenter notre musique, quoi.
Ouais. Alors, là, tu n'es plus à Paris, on va y revenir, mais on t'a vu notamment au concert commun de Coax et de l'Arfi.
Ouais.
Donc, tu gardes des liens avec Coax.
Carrément.
Ouais, mais est-ce que tu participes encore à un ou plusieurs de leurs projets, de leurs groupes?
Clairement, voilà, j'habite à Marseille, j'habite à 900 km de Paris, donc ça rend pas les choses hyper fluides. Mais le dernier projet auquel j'ai participé de projet Coax, c'est le Brazil Mashup, qui est un projet où on est beaucoup de musiciens de Coax et qui est aussi de la vidéo et des interactions en live. Bon, là, ça fait un moment qu'on n'a pas joué. De toute façon, ça fait un moment que personne n'avait joué avec la conjoncture actuelle, la crise sanitaire, tout ça. Mais même avant ça, pour des raisons de... C'est vraiment une très, très grosse machine en termes de nombre de personnes sur le plateau, de dispositifs, d'écrans, enfin voilà. Donc,
tu peux le préciser, justement, ce dispositif?
Eh bien, il y a grosso modo... Ça change un petit peu selon les lieux, mais il y a grosso modo au moins trois grands écrans. Les musiciens disposés tout autour sous les écrans, le public en... centrale dans la fosse et des mecs qui envoient de la vidéo et d'autres mecs qui traitent la vidéo en direct avec des parts synchro avec les musiciens ou pas, de la déambulation, enfin voilà, c'est vraiment un gros machin dans l'esthétique du mashup, donc avec pas forcément une cohérence de narration, enfin voilà, avec beaucoup de cuts, beaucoup de sensations comme ça qui viennent, qui repartent, enfin voilà, c'est un chouette machin. Ouais,
et donc là, t'as encore des groupes avec des gens de Coax?
Alors, des groupes avec des gens de Coax qui jouent, pas vraiment officiellement, puisque les groupes, clairement, ça va, ça vient. Le premier groupe dans lequel j'ai joué dans Coax, d'ailleurs, c'est le premier album qui est sorti sur le label, c'est Rétroviseur, où on a tous été un petit peu éclaté géographiquement. Et puis du coup, pareil, Pipeline, c'est un groupe qui joue plus trop, qui joue plus même, hein, voilà. Q, c'était pas un groupe de Coax, du coup, même si Julien, voilà, c'est le Coaxien par excellence. Mais en tout cas, c'est des gens avec qui j'ai une connexion musicale hyper forte. Que si ça se présente demain, on sera toujours hyper ravis de jouer ensemble et qu'il y a un truc vraiment de confiance, en fait, et au niveau de la sensation musicale, comme on a toujours joué ensemble hyper jeune, qui est là. Et voilà, c'est comme les amis de longue date, en fait. Même si on ne se voit pas pendant des années, quand on se retrouve, c'est comme si on s'était quitté hier. Bah, on est vraiment dans ce rapport-là. Après, c'est sûr qu'on est dans un milieu où les groupes, ça va, ça vient. On a tous des chemins personnels où on est en perpétuelle évolution de par la musique qu'on fait, parce qu'on est constamment en recherche, en fait. Donc, on quitte des choses, on en crée des nouvelles. Et puis, des fois, on revient. Et moi, je sais que si demain, je remonte sur scène avec Rétroviseur ou Pipeline, j'aurai toujours autant de plaisir, en tout cas, ça, c'est sûr.
On va parler d'autre chose, on va parler du trio. On va écouter d'abord le trio avec Jean-Jacques Birger et Antonin Triong. Le morceau s'intitule « Caramel au beurre glacé » et on en parle après. Thank you. Voilà, c'était le trio Jean-Jacques Birger, Antonin Triangle et bien sûr Fanny Lafargue, notre invitée aujourd'hui. Alors, comment s'est décidé et déroulé l'enregistrement de ce disque animé ?
Alors, en fait, donc c'est Jean-Jacques hein, Birger qui a l'initiative de ça. Lui, il a un projet global quoi, qu'il a amorcé il y a plus de 10 ans maintenant, qui est en fait de jouer pour se rencontrer. Et pas de se rencontrer pour jouer, ce qui se passe le plus souvent finalement. Donc du coup, un jour, je reçois un coup de téléphone de Jean-Jacques qui me dit « Ouais, ça te dit, tu viens à la maison avec Antonin, ils se connaissent vraiment très bien avec Antonin, ils jouent depuis des années ensemble. Et puis on joue, et puis on enregistre, et puis on se fait une bouffe, et puis on voit quoi, voilà. » Donc voilà, et en fait du coup Jean-Jacques il a fait ça avec énormément de gens et il a sorti il y a pas longtemps un double disque qui s'appelle Pique-nique au labo où voilà, il y a plein d'extraits de tous ces enregistrements qu'il a fait avec plein de musiciens, musiciennes, improvisateurs, improvisatrices. Et donc ce jour-là, quand on se retrouve, bah, on va direct dans le studio et puis paf, on joue quoi. On s'est à peine dit bonjour et puis voilà, c'est ça là qu'on entend. Donc moi je jouais déjà avec Antonin à l'époque dans le White Desert Orchestra d'Eve Risser qu'on écoutera plus tard si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà, donc on se connaît un peu, mais pas dans un contexte totalement improvisé finalement. Ça c'était encore jamais arrivé. Et puis bah voilà, on joue et puis bah comme il arrive souvent dans l'impro libre comme ça, quand les gens s'écoutent et qu'ils ont un réel désir de jouer ensemble, bah il y a des petites merveilles qui sortent, des fois drôles, des fois poétiques, des fois jolies, des fois sombres, enfin voilà. Et du coup on a pris beaucoup de plaisir à faire ces impros ensemble. Donc là du coup cet extrait il n'est pas issu de Pique-nique au labo parce que l'extrait qu'avait choisi Jean-Jacques pour le double disque c'était pas mon préféré, donc moi j'en ai choisi un caramel au beurre glacé qui est, soit dit en passant il l'a appelé comme ça parce que au repas, c'est un super cuisinier Jean-Jacques, donc il avait hyper bien cuisiné et puis en dessert on a eu les fameuses glaces Bertillon au caramel beurre salé, là voilà le titre de la track. Et voilà, du coup j'ai choisi cet impro, ouais j'aimais bien cet effet patchwork et puis de cut-off comme ça, ça me plaisait bien. Les samples qu'utilise Jean-Jacques, je les trouve assez trippés. Et puis, je trouve qu'il y avait une belle connexion aussi avec Antonin sur toute la matière, là, à la fin, avec la basse. Donc, voilà, j'ai choisi pour ça.
Ah bah super, merci. Hein. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment bien. Et donc, du coup, j'imagine, il n'y a pas eu forcément de concert avec ce trio de suite, quoi.
Non, alors on a joué ensemble dans un autre contexte que Jean-Jacques, il aime bien faire ça aussi. C'est des impros sur les rêves. Donc, du coup, il réunit des gens et puis il faut venir avec l'histoire d'un rêve et puis en faire une impro. On raconte le rêve au public et puis on fait une impro tout de suite sur le moment. Et du coup, ce soir-là, donc il y avait encore Antonin, Jean-Jacques, du coup, il y avait aussi Alexandra Grimal et Édouard Perrault. Voilà, et on s'était vraiment très très bien amusés. Mais voilà, Jean-Jacques, il aime bien faire ça, hein, réunir des gens. Il sait un peu que la sauce va prendre, même s'il n'en est pas sûr. Et puis en fait, on serre à peine la main et boum, on joue direct. Et c'est vrai qu'il se passe des choses assez magiques, quoi.
Alors, Animé, c'est un disque d'impro, tu viens de le dire. Ouais. Tu viens de nous expliquer le fonctionnement. Je voudrais savoir comment tu considères la fixation de la musique sur un disque en général et plus particulièrement concernant la musique improvisée.
Alors, c'est vrai que la musique improvisée, pour moi, c'est vraiment une musique de live.
Ouais.
Et pas une musique de support, quoi, clairement. Parce que c'est une musique de l'instant, du présent, qui se partage avec les musiciens, avec les auditeurs. Et forcément, sur un support, on va pas capter la même essence. Et alors, des fois, ça peut être... c'est pas une question de mieux, de moins bien, de plus fort, de moins fort, mais ça met juste à un autre endroit qui, je trouve, est moins représentatif de ce qui se passe vraiment pour moi dans l'improvisation, qui au final est pas loin d'une sorte d'état de transe, quoi. Donc alors après on peut se mettre le casque hyper fort et rentrer vraiment dans une bulle, mais ouais, pour moi c'est une musique de partage de l'instant et de vivant, pas de différé en fait. Donc j'avoue que moi-même j'écoute peu de musique totalement improvisée sur support, quoi. Je vais au concert mais je prends plus de plaisir à écouter un support quand l'impro tout du moins a été balisée soit par un cadre, soit par de l'écriture, soit pour moi ça a plus de sens d'écouter cette musique là sur disque, quoi.
Oui, je suis bien d'accord. On écoute Skulltone.
Ouais.
Skulltone. Oh, bah,
pas de souci.
Je l'ai prononcé à la tchèque. Ton duo avec le batteur Emmanuel,
ouais,
Scarpa.
Ouais.
Le morceau s'intitule Engrume. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres avec notre invitée aujourd'hui, Fanny Lasfargue. Pardon pour avoir écorché ton
nom. Il n'y a pas de souci.
Alors, peux-tu nous parler de ce duo Skulltone ?
Eh bien, ouais, avec grand plaisir. Donc, Skulltone, c'est un duo avec Emmanuel Scarpa, qui est donc batteur et puis qui a aussi de l'électronique et qui chante aussi dans ce groupe. C'est un peu la particularité de ce groupe, Skulltone. C'est le délire, en fait, c'est comme si on était un groupe de rock avec des choristes, mais il n'y a pas de voix lead, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée du truc, et on s'éclate bien à faire ça. Et donc, avec Manu, on a commencé à jouer ensemble, ça remonte à 2012, je pense. Donc on a fait beaucoup de sessions à Lyon dans son studio pour écrire cette musique et se trouver dans cet endroit qu'est Skulltone. Et puis depuis, bah, en fait, on a eu pas mal de projets ensemble, dont des projets qui jouent encore d'ailleurs, notamment le Eurythmia d'Ève Risser et puis le Kogoba Basigi aussi d'Ève Risser. Donc voilà, qui est... Bon, on en parlera plus tard. Oui. Mais du coup, avec Manu, ouais, il y a déjà basse batterie, quoi. Donc, faut, au niveau de la connexion, on est bon. Ça fonctionne hyper bien. Et puis, humainement aussi, on a beaucoup d'endroits avec Manu où on sent bien. C'est une personne, pour moi, qui... on va parler un peu de ça. Du coup, dans ses musiques, ses musiques libres, improvisées, le jazz improvisé, tout ça, il a une énergie... Manu qui est vraiment il accueille son féminin, Manu, et ça c'est agréable parce qu'on se retrouve quand même souvent dans des milieux où il y a beaucoup d'hommes et où c'est pas toujours évident pour nous les meufs de graviter là-dedans, et Manu, ça fait partie des personnes où en fait la question du genre, pour moi, elle s'est jamais posée et je me suis jamais sentie dans ce genre de rapport avec lui, et c'est pas si souvent, même si ça arrive de plus en plus, et du coup, c'est aussi hyper précieux, quoi.
Alors, j'en profite pour te demander, est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution par rapport à ça en ce moment ?
Il y a du mieux, clairement, mais encore tellement à faire. Enfin, c'est voilà. Alors, les gens avec qui on travaille, c'est pas avec qui on travaille directement. Je veux dire, les autres musiciens, en général, c'est pas avec ces personnes-là où on est confronté à des situations problématiques. Mais par exemple, là, je me souviens. Encore on a joué dans un lieu avec Tassiana Paris, avec une amie guitariste avec qui on bosse là en ce moment, ouais. Où grosso modo, on a des instruments qui vont être plus ou moins réactifs à l'électricité statique, aux problèmes de buzz liés au circuit des lumières qui passent dans les circuits du son, tout ça, machin. Ouais. Et nous, on a beau être carré sur notre matos, bien connaître tout ça, il y aura toujours un technicien qui sera là pour nous expliquer que c'est à cause de nos pédales ou qu'on a forcément un jack qui marche pas. Et ça va être le premier truc qu'il va nous dire, au lieu de se dire, il y a peut-être un problème dans ma salle ou peut-être que c'est... voilà. Et c'est vrai que ce genre de choses, enfin, moi, j'ai jamais vu un technicien aller voir un pote musicien pour lui expliquer que sa guitare a été mal réglée ou que sa pédale a été mal branchée. Et c'est vrai qu'on est quand même hyper souvent à confronter à ce genre de situation encore, quoi. C'est assez fou. Une espèce de paternalisme, comme ça, un peu inconscient, des fois, et pas forcément mal intentionné, d'ailleurs, hein. C'est juste, intrinsèque, quoi. Les gens, ils ont grandi, comme ça, ils ont évolué dans cette société, et clairement, c'est ancré en eux, et ça met beaucoup de temps à se défaire, quoi. Voilà.
Et revenons à Skulltone. Ouais. Le groupe est-il en activité encore ?
Eh ben, écoute, là, on vient de jouer à Dijon. C'était assez marrant comme expérience parce qu'on a joué déjà sous un chapiteau. Donc le chapiteau, c'est alors même si c'est très beau et c'est assez trippé comme lieu, c'est agréable. Au niveau de l'acoustique, en général, c'est assez compliqué. Et là, ça l'était. On s'est retrouvé avec une espèce de réverb de cathédrale. Donc du coup, forcément, pour un groupe un peu rock comme ça, c'est pas évident à gérer. Mais on a quand même passé des super moments. Et notamment, on a fait ça avec ces Utiques de Dijon, donc avec Fred Ménard, qui est aussi le DA du Tribu Festival de Dijon, qui nous a fait un peu une sorte de commande où ils essayaient un peu de faire des événements dans ce contexte où les concerts n'étaient plus possibles, de proposer autre chose que juste un concert live stream. Et du coup, on a bossé avec une vidéaste Shiva, et qui a fait des images et qui est parti un peu dans un délire, qui nous a mis un peu dans un mood de battle. Alors on était à moitié déguisés en boxeur en train de faire nos morceaux, et là on est en plein des recharges de toutes ces vidéos, tout ça, de son, donc on va concocter un truc sympa. Et puis ce qui a été aussi beau comme expérience là-dedans, c'est que du coup le chapiteau, il était monté dans le grand jardin d'un hôpital psychiatrique. Et du coup, on a fait une restitution pour des jeunes, voilà, qui sont en difficulté, et ça a été un échange, hyper hyper fort, hyper enrichissant, comme ça peut souvent l'être quand on se retrouve à jouer dans des lieux insolites et à présenter cette musique qui peut paraître incongrue pour des gens qui n'ont pas accès si facilement que ça, et ça crée vraiment des belles choses, quoi. Mmh. Voilà.
Alors, moi, je voulais te demander aussi sur à propos de cette formule duo. Duo basse batterie, ouais. Moi que j'adore, hein, depuis Ruins, ouais. Puis il y en a eu plein. C'est une formule qui est pas rare. Et je veux savoir qu'est-ce qui pousse des musiciens rythmiques, donc basse et batterie, à se passer d'autres instruments, selon toi?
Je crois que la relation basse-batte, qui est finalement vraiment la fondation du groove, quoi. C'est un truc. Déjà tellement fort en soi que ça peut avoir une existence propre sans forcément y ajouter quelque chose. Et puis c'était aussi l'occasion pour nous, parce que finalement c'est pas que du bass-bat totalement nu, on a tous les deux beaucoup d'électronique, donc du coup il y a aussi des machines qui prennent un peu l'espace, comme s'il y avait une guitare ou un clavier, et puis des voix du coup qui se rajoutent à tout ça, donc c'est pas du bass-bat totalement brut, mais c'est vrai que il y a cette espèce de truc agréable, un peu de suffisance. Et puis, c'est une façon de se mettre en danger aussi. Parce que du coup, quand on n'est que deux à tenir le truc, il faut composer avec l'autre. On se met dans une situation où il y a des moments où on fait vraiment du bass-bat, donc il faut que ça groove. Et il n'y a pas l'habillage qui peut permettre à l'imprécision de bien sonner, quoi. Il faut que ce soit, bam, direct, quoi.
Ouais. Je propose qu'on écoute un extrait du Wild Desert Orchestra de Evry Serre, dont tu as parlé un petit peu. Le morceau s'intitule « Éclat ». Alors voilà, nous venons d'écouter Éclat du White Desert Orchestra de Evry Serre. Est-ce que tu peux nous parler de cette formation et peut-être aussi du morceau qu'on vient d'écouter ?
Bah ouais, carrément. Alors Éclat, en fait, c'est Eve, le White Desert Orchestra, elle avait fait chaque morceau en fait était basé sur quelque chose d'assez précis, parfois un paysage, parfois une pierre, voilà. Et là, Éclat en fait, c'est une pierre, c'est un quartz avec des inserts, des éclats de tourmaline dedans. Voilà. D'ailleurs, il y a la photo de la pierre en question dans le disque. Et le White Desert Orchestra, donc c'est un grand orchestre, hein, on est assez nombreux là-dedans. Et moi, ce que j'ai choisi cette piste, en fait, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est comment un soliste, donc qui a pour mission vraiment d'être un électro libre, d'improviser, s'articule avec de l'écriture et une vision très orchestrale de voilà d'une narration. Et je trouve que Eve, elle sait faire ça et elle sait guider les gens là-dedans admirablement bien, et que le résultat est vraiment incroyable, et que dans l'improvisation libre, on n'a pas souvent, enfin en tout cas, c'est moins courant d'avoir ce genre de recette. De l'impro, quoi, d'avoir à la fois de l'écriture dirigée et en même temps qui est sentie, parce que là, tout ce qu'on a entendu dans les popé, 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 des soufflants, c'est les accords sont écrits, mais le rythme, en fait, c'est la section qui trouve son rythme, qui voilà. Donc il y a aussi une notion d'improvisation dans l'écriture. Et moi, dans ma partie de soliste, j'ai aussi une notion d'écriture dans mon improvisation, puisque je vais aller chercher des sons, des matières qu'on a choisies ensemble pour faire cohabiter avec l'écriture. Donc j'ai une liberté là-dedans, mais voilà, je pars pas n'importe où non plus. Donc la cohérence du propos, en fait, elle est vraiment construite sur écriture, improvisation, écriture dans l'improvisation, improvisation dans l'écriture. Voilà, et c'est ça que je trouve assez merveilleux. Voilà, c'est beaucoup de plaisir à jouer ce genre de choses, et le résultat est vraiment très beau, voilà, je trouve.
Oui, je confirme. Alors, nous avons le plaisir de te recevoir aujourd'hui, car mercredi, tu jouais à Cergy dans le Red Desert Orchestra, initié toujours par Evry Serre. Est-ce que tu peux nous parler alors de ce programme Eurythmia ?
Alors, Eurythmia, c'est une équipe qui sera la même que dans le Kogoba Basigi, avec des extras, et quels extras, qui sont deux balafonistes, donc les sœurs Yé, Ophélia et Mélissa Yé, qui viennent de Bordeaux, et Oumarou Bambara aux percussions. Donc ces trois personnes sont d'origine burkinabé, alors que dans le Kogoba Basigi, nos extras, c'est nous les extras en fait, et c'est eux les piliers, l'essence même du groupe, c'est le Kalajou la bande qui vient de Bamako du Mali. Donc voilà. Et le programme Eurythmia, c'est comment en fait faire cohabiter à la fois cette essence de musique africaine et cette essence. On est encore dans l'orchestration, hein, c'est vraiment bien orchestré la musique. Je pense que comme elle orchestre son piano préparé, finalement, quoi, tout est orchestration, et c'est la cohabitation du groove africain, de comment aussi on va se placer dans l'improvisation, des sons étranges, de la matière sonore, de la mélodie, des harmonies, enfin voilà, il y a elle sait tout bien mettre dedans, et tout à sa place, quoi, voilà.
Oui. Alors autre chose, je voulais savoir, qu'est-ce que tu as fait durant les différents confinements? Je te demande ça parce qu'il me semble avoir vu sur internet un truc qui s'appelle Quarantine Concert.
Tu vois? Non, alors ça me dit rien du tout. Je sais que ça diffusait. J'ai pas fait de solo. J'ai fait un solo, mais ça s'appelait pas comme ça en tout cas. C'est un autre délire. Alors, bon, déjà, la première réponse, alors qu'est-ce que j'ai fait pendant les confinements? Il faut savoir que moi, je suis maman de deux jeunes enfants. Donc, du coup, quand j'étais à la maison, qu'il n'y avait pas d'école, qu'il n'y avait pas de crèche, clairement, j'avais très peu de temps pour faire de la musique ou lire un bouquin, enfin, voilà. Sachant que mon dernier, il est né juste avant le premier confinement, en fait. Donc, vraiment, c'est... Voilà, moi, j'ai accueilli un enfant dans le monde. Au premier confinement, ça a été ma première tâche. Voilà. Mais par contre, oui, j'ai fait une petite vidéo solo pour un événement de The Bridge, parce qu'il faut savoir que je suis dans le prochain programme de The Bridge, donc il y a un échange avec des musiciens de Chicago, improvisateurs et des musiciens français. Et en fait, ça a fait 2 ans qu'on reporte la tournée de l'automne, voilà, parce que, bah, voilà, crise sanitaire, qui normalement, j'espère, Inch'Allah, est reportée au printemps là, 2022, donc bientôt. Il y a eu beaucoup d'ascenseurs émotionnels avec la tournée 2020 qui a été annulée, puis la tournée 2021 qui a été annulée. Voilà. Et donc, The Bridge, Alexandre, c'est Alexandre Pierrepont qui m'a demandé. Ouais. Il a fait jouer donc, 2 musiciens du groupe dans lequel je serai sur la prochaine tournée, qui sont Messi Stewart et Damon Lux, dans un club à Chicago. Et en première partie, était diffusée une petite vidéo solo que j'avais fait à la maison avec mon ordi, voilà, un peu à la route. Donc c'est probablement ça que tu as dû voir passer.
Oui, il me semble. Ouais. Ouais. Mais alors, en fait, c'est un prétexte pour te faire parler de tes solos. Tu joues en solo. Est-ce que tu peux nous dire comment tu envisages un solo, comment tu le construis? Est-ce que c'est totalement improvisé? Est-ce qu'il y a une trame?
Alors, ça dépend des situations. Quand je me retrouve en situation de solo live, très souvent, j'ai des matériaux sous le pied qui sont en fait les matériaux dans lesquels je vais être à ce moment-là, dans les groupes dans lesquels je joue ou dans les matières que j'ai travaillées à la maison ou dans le groove que je viens d'écrire. Voilà. Et sans décider à l'avance que ça va sortir, en général, ça sort. Si je suis un peu dans de l'inconfort ou même si j'ai juste envie de ça, ça peut m'arriver de me dire bon, bah, je vais commencer par tel truc. Alors le truc, ça peut être justement une préparation, que voilà, un objet que j'ai envie de mettre dans les cornes ou alors une pédale que j'ai envie d'allumer, enfin voilà. Et je vais me mettre un point de chute, c'est-à-dire je vais me dire tiens, j'aimerais bien, je suis dans un mood là où j'aimerais bien finir sur tel genre de choses, tel genre de matière. Et ça peut se produire comme ça ne peut pas se produire, en fait. Ça veut dire que en route, finalement je peux décider de pas y aller. Souvent, ce qui se passe quand je suis dans un solo, c'est que là, pour le coup, je rentre vraiment dans un état proche de la transe, quoi. C'est-à-dire que je me laisse traverser par ce qui se passe. Je vais commencer quelque chose et puis, tout va se dérouler au fur et à mesure. C'est presque plus moi qui décide. Ou alors, si je décide d'aller quelque part, le corps, finalement, il va peut-être m'emmener ailleurs. Enfin, ça reste quelque chose d'assez primitif pour moi dans le rapport, quoi. J'aime bien, en fait... Je monte dans le bateau et puis en fait, je sais pas où j'arrive, quoi. Oui. C'est assez plaisant.
Alors, tu joues de combien d'instruments? J'ai repéré la contrebasse et j'ai repéré cette superbe guitare basse électroacoustique. Et je pense que il me semble de t'avoir vu jouer avec République Anarchiste. Anarchist
ouais,
of Bzee.
Anarchist Republic of Bzee, ouais.
Ce groupe existe encore d'ailleurs?
Ouais, il existe carrément.
Enfin, t'en fais pas.
On n'a pas de date de prévu, ouais. Mais il existe grave, quoi. On ne demande que ça de remonter sur scène.
Bah oui. Et alors, je ne sais plus si tu avais cette basse électroacoustique, ça m'aurait. Je crois pas. Hein.
Si, je pense que
ah,
si.
Ah, c'était ça ouais, ouais. J'avais pas repéré, tu vois.
Ouais.
Mais je l'ai repéré en vidéo. Ouais, c'est un joli instrument. Est-ce que tu peux nous parler de cet instrument? Est-ce que c'est comparable à ce dont joue Luc X, à savoir, est-ce que tu peux en jouer sans être amplifié?
Pas tout à fait, parce que celle-là, c'est ce qu'on appelle une hollow body, donc ça veut dire que elle va être un peu plus épaisse qu'une basse acoustique, qu'une basse électrique, pardon, ouais, puisqu'il y a une caisse de résonance, mais moins épaisse qu'une vraie basse acoustique. Ah, c'est-à-dire que la caisse de résonance est moins profonde. Donc clairement, si tu la branches pas, ça, tu peux travailler à la maison, mais sur scène, ça va pas trop faire le job. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, clairement, dans cet instrument, alors j'ai aussi une basse électrique, mais que je joue peu, finalement. Depuis quelques années, je la joue peu, et puis on m'appelle pas pour ça. Et puis, Bon, bref, voilà. Ce que j'aime dans l'instrument de la basse électroacoustique, c'est ce rapport au micro piezo, en fait, qui est vraiment qu'un micro qu'il n'y a pas sur une basse électrique et qui va me permettre aussi d'utiliser l'instrument complètement autrement que sa fonction première. C'est-à-dire que le micro piezo, c'est une petite plaquette de bois dans laquelle passe un ruban qui est le micro, et du coup là-dessus je peux mettre des percussions, je peux, enfin voilà, et du coup je peux mettre des brosses, je peux avoir beaucoup de matière sonore auxquelles je vais pas avoir accès avec des micros à bobine d'une basse, quoi. Voilà.
Oui, parce que tu joues, on dit maintenant, tu as un jeu étendu, on dit ça.
Ouais, sans doute.
Avec des objets, des choses comme ça.
Ouais.
Et des pédales d'effet aussi, j'imagine. Enfin,
ouais, semble... beaucoup de pédales d'effet. Ouais. Et puis, ce que j'aime aussi dans ce rapport à cet instrument, c'est du coup moi qui ai commencé par la contrebasse, donc avec un rapport complètement acoustique au son, le piano aussi. C'est que même si on est dans l'électricité, on est dans le traitement. Le traitement avec les pédales d'effet, j'ai quand même, il reste quand même, voilà, cette caisse de résonance, le bois qui sonne, enfin voilà, un espace acoustique qui est diffusé par de l'électrique, mais voilà, il existe quand même, quoi. Ça me donne accès, enfin ça met un endroit qui est très cohérent pour moi, parce que quitter complètement l'acoustique, c'est quelque chose en tout cas dont j'ai pas envie pour l'instant.
Et donc sur la contrebasse, pas d'effet par contre?
Ah si si, ah, ah, si, bah, ouais. Voilà, bah, si. si pour le coup, le traitement sonore, des effets, de la préparation aussi, même plus que sur la basse, la préparation du coup, parce que en termes de volume, en termes d'accès aux cordes, en termes de matériaux, on a accès à bien plus de choses sur une contrebasse, on peut y mettre plein de trucs, c'est vraiment un terrain de jeu super. Et du coup, oui, j'aime aller dans des endroits où en fait l'instrument il sonne d'une manière où en fait, si on ne sait pas que c'est une contrebasse, si on n'a pas eu l'information, ouais, on peut ne jamais le savoir, quoi. Mmh. Voilà.
Ouais, super. Je propose qu'on écoute Aléis, le projet de Juliette Meyer, ouais, avec Benoît Joublot, Thibaut Gomez et Fanny Lasfargue.
J'avance dans
l'entaille tendre de ton image. J'avance dans la lumière claire de ton courage. Sur mon sentier, entre les jours, tu traces mon pas. Et au détour de ma mémoire, je t'aperçois. Fermé, je me souviens dans un long rêve échappé, ta joue matin, ton repos est ma douleur.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Arts et Libres, avec aujourd'hui notre invitée, la bassiste contrebassiste Fanny Lasfargue. Alors, peux-tu nous parler de Alice, cette nouvelle formation de Juliette Meyer, dont on vient d'entendre un extrait?
Ouais, et ben... Avec Juliette, on s'est rencontrés, donc elle m'a appelé au début de l'année, fin 2019 ou début 2020, grosso modo. Elle m'avait vu sur scène quelques fois. Voilà, c'est un des premiers coups de fil. Il y en a eu d'autres après, mais qui m'a mis dans un rapport de « Ouais, alors tu me connais pas, mais moi je te connais parce que je t'ai vu jouer avec un tel ou quoi. » Enfin voilà, parce que grosso modo, j'ai 10 ans de plus qu'elle, donc elle m'a vu sur scène. Et moi, j'étais dans ce rapport-là il y a encore pas si longtemps que ça. Donc ça, c'était rigolo, bref. Et donc, elle m'appelle pour ce projet qu'elle a de chansons avec de l'écriture et de la musique improvisée. Et du coup, on fait une première session ensemble pour se rencontrer tout début 2020, où il y a des belles choses qui se passent, ça marche plutôt bien. Et on décide d'enregistrer en juillet qui suit, donc juillet 2020, avec du coup Thibaut Gomez au piano et Benoît Joublot à la batterie, d'enregistrer quelques tracks et voilà, de commencer ce projet qui n'a pas encore de nom à l'époque, tout en sachant que c'est aussi une rencontre, un essai, et que on a tous la liberté de se dire que bon, bah finalement, pas que ça marche ou que ça marche pas, mais que la proposition musicale, c'est pas forcément un endroit dans lequel on a envie de s'installer. Enfin voilà, il n'y a pas de promesse encore à ce moment-là. Et puis donc, on bosse en juillet à Marseille. Moi, je suis un peu dans un état... second, parce que voilà, j'ai un tout petit bébé à la maison et puis une autre qui est pas non plus très grande, donc grosso modo je dors pas, Donc j'arrive, je suis vraiment au bout de ma vie à chaque fois. Et puis on bosse toute la journée. C'est juillet, c'est le sud, on campe de chaud. Enfin bon, voilà. Mais il se passe des super trucs. Il se passe des super trucs. Et surtout, il commence à naître de l'écriture collective. Et là, ça devient vraiment intéressant. Parce que du coup, Juliette, elle arrive avec du matériau. Déjà en premier lieu, des textes, des mélodies, des propositions d'improvisation ou d'harmonie, voilà. Et ça a du mal à se mettre en route, c'est-à-dire qu'on a du mal à trouver l'endroit qui va fonctionner pour tout le monde. Du coup, grosse conversation de savoir si est-ce qu'on a la place, nous, pour vraiment proposer quelque chose, ou est-ce que ce qu'elle a ramené, ça doit exister comme ça. Et du coup, ben, on fait le job, entre guillemets, on enregistre, mais c'est peut-être pas avec nous qu'elle continue. Et puis Juliette, qui est une personne évidemment très intelligente, très sensible, avec des oreilles grandes ouvertes, nous a dit, mais évidemment, allons-y, proposer. Donc on a commencé à écrire les choses ensemble. Et le résultat, du coup, c'est qu'on a, on a un projet qui clairement, c'est de la chanson, parce que la voix, les textes sont au premier plan, mais déjà, les musiciens ne sont pas que des accompagnateurs, c'est-à-dire que la force de ce projet, moi, je trouve, c'est que tous les moments d'improvisation, du coup, on est dans un rapport vraiment tous de musiciens, il n'est plus question de voix lead. Et même quand il y a du texte, même si forcément le texte a une notion de premier plan parce qu'il y a du mot, du sens, de la compréhension, il y a quand même tout un propos musical derrière qui est hyper fort, qui est au service de ce texte, mais qui existe aussi en tant qu'entité avec vraiment une identité que je trouve puissante et intéressante. Et cette cohabitation texte, voix, impro, matière, groove, voilà, c'est un endroit dans lequel j'étais encore jamais allée et que j'ai encore envie d'explorer. Voilà, c'est tout nouveau, on n'est pas encore monté sur scène, on a un teaser qui circule, mais on a encore d'autres résidences qui se prévoient là pour l'automne et puis bientôt des concerts. Et j'ai très envie de monter sur scène avec ce groupe, je pense qu'on va bien s'amuser.
Ouais, super. Et un disque ?
Un disque, bah, il y a l'EP qui est sorti il n'y a pas hyper longtemps, qui est disponible sur Bandcamp, où il y a... que je dise pas de bêtises, trois titres. Voilà, trois titres qu'on a réussi à mettre en boîte justement cette semaine-là de travail en juillet et qui sont les prémices du groupe. Et puis on s'est revus du coup il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, et on a d'autres titres qui sont en préparation. Donc si tout roule, j'imagine qu'on pourra enregistrer un vrai album. Ouais, en début 2022, ça, ce serait possible, je pense.
Je te demande ça parce qu'on a parlé avec Juliette de sa venue dans l'émission.
Donc ouais.
Peut-être à l'occasion d'un concert, peut-être, on verra. Parce que j'ai pas envie d'attendre 2022.
À l'automne, il est très chargé pour tout le monde, là, avec les reports. Il se passe énormément de choses. Mais on a une petite résidence qui est prévue. C'est pas confirmé encore, mais bon, normalement, qui est prévu pour l'automne et peut-être avec une date parisienne à la clé.
Voilà. Ah bah voilà.
On en dira plus.
Bon, je demanderai. Et maintenant, on va écouter Pipeline. Est-ce que tu peux nous parler de ce groupe ?
Alors, Pipeline, on joue plus avec Pipeline, mais j'ai beaucoup d'affection pour ce groupe parce que c'est un groupe punk, rock, garage, avec deux basses, batterie et sax. Avec les copains du conservatoire, on était tous dans la même promo au CNSM avec Antoine Viard, donc saxophone, Ronan Courty, contrebasse, Yann Joussin à la batterie, et du coup, moi, je joue de la basse électroacoustique là-dedans. Et voilà, c'est Antoine qui nous réunit, c'est Antoine qui écrit, qui compose, qui écrit plein de mélodies, qui écrit des grooves à deux basses, des grooves de batterie, et c'est une espèce d'énergie d'ado, quoi, que je trouve absolument géniale. Après, là, la chanson que j'ai choisie, c'est une love song, quoi. C'est enlevez vos masques et faites-vous des câlins, et voilà, tranquille, on se met dans le canap, on est bien, c'est beau, et puis voilà, ça fait du bien quand on a écouté beaucoup de... d'avoir... une belle mélodie, voilà, dans laquelle se lever.
Voilà, c'était Popline de Pipeline.
Yes.
alors, Fanny.
Grande recherche au niveau des noms.
Ah oui. Bien. Parlons un peu de Marseille, si tu veux bien. Fais-tu partie d'un collectif là-bas? Es-tu lié à un lieu, à une structure? Comment ça se passe?
Eh ben, pas vraiment. J'avoue que j'ai pas. Alors déjà, monter ma structure, j'ai clairement pas le temps entre tout ce qu'il y a à faire dans le boulot et puis la vie de famille, hein, puisque comme j'ai dit, j'ai des petits. Des petits trolls et gnomes à la maison maintenant. Mais ouais, ça fait 8-9 ans que j'habite à Marseille maintenant, qui est pour moi vraiment un endroit idéal où vivre. Pas où travailler, mais où vivre en tout cas. Ouais. avec la proximité de la nature, voilà, la colline, la mer. Et puis l'énergie du soleil aussi, hein, moi qui ai grandi... en banlieue, dans la cité, dans le béton, dans la grisaille parisienne. J'ai toujours manqué de nature dans ma vie. Et du coup, quand la vie m'a amenée là-bas, parce que j'avais aucune raison de partir, mais quand la vie m'a amenée là-bas, j'étais franchement ravie. Et voilà. Et du coup, pour ce qui concerne de bosser là-bas, bah, il se trouve que je vais y jouer dans pas très longtemps, mais que ça se fait, que c'est assez rare, mais que ça devrait se faire de plus en plus. Là, j'ai trouvé des gens avec qui travailler, notamment Aïda Bellam de Bifree Productions, avec qui je pense qu'il va se passer des choses. Et puis, bon, ça, j'ai pas le droit de le dire, mais il y a sûrement des gens avec qui j'aime bien travailler qui vont venir s'installer sur Marseille et qui vont faire des trucs sympas et qui vont m'inviter, j'espère, aussi. Donc, voilà. Mais c'est vrai que travailler à Marseille, dans notre réseau, dans le réseau des musiques improvisées, il y a peu de place. Ouais. Il y a peu d'événements, peu de place. Et c'est... Voilà, déjà, c'est pas ce qui prime d'un point de vue culturel, là-bas. Et même la culture, j'ai envie de dire, c'est pas ce qui prime à Marseille. Parce que il fait trop beau. Il fait beau 80% du temps de l'année et que les gens, ils ont plus envie d'aller se faire un barbecue sur la plage que de s'enfermer dans un musée ou une salle de concert. Et j'avoue, je peux pas leur en vouloir.
C'est vrai que moi j'avais une autre idée. Hein. Je connais quelques personnalités là-bas. Ouais. Puis il y a le GNEM.
GMEM, ouais.
Mais bon, voilà. Bon, ouais. Donc c'est forcément différent de ce que tu as connu ici.
Bah, le GMEM, il se passe des trucs, hein, clairement. Mais c'est vrai qu'on va être plus dans un réseau de musique électroacoustique, ah oui. De dispositifs de diffusion et moins dans un rapport. Noise ou vraiment complète musique libre avec des musiciens, voilà, c'est il y a de la place un peu pour ça là-bas, mais c'est pas ce qu'il y a en première ligne, quoi. Et alors après il va y avoir des trucs vraiment plus expé punk avec des salles comme l'Embobineuse, mais et voilà, et puis c'est des lieux qui ont pas forcément des gros moyens, donc en fait disons qu'avoir des moyens convenables et puis d'être payé aussi correctement pour son travail, enfin voilà, faut dire ce qui est, c'est pas évident, les occasions sont rares à Marseille, oui, de ce genre de choses, voilà.
Oui. Alors on va parler d'une Marseillaise, enfin d'une néo-marseillaise, hein, Blanche Lafuente,
ouais.
Notre camarade, notre amie Blanche et de Morgane ouais. Carnet. On va terminer l'émission avec Konnichiwa D. Alors ouais. Peux-tu nous parler de ta rencontre avec
mais grave, j'en parle. Blanche, en fait, c'est pas tout à fait néo-marseillaise parce qu'elle est de là-bas à la base.
Ah,
après, elle est montée à Paris pour faire plein de trucs, dont de la musique. Mmh. Mais puis, du coup, elle est retournée vivre à Marseille là-bas. Mais ouais, elle est de Marseille à la base. Si on l'écoute bien de temps en temps, elle se trahit. Hein, elle a quand même des expressions très marseillaises et puis un accent qui surgit. Enfin voilà. Mais grosso modo, du coup, moi, je rencontre Blanche. Elle m'appelle parce que elle a croisé Yann Joussin, si je dis pas de bêtises, qui lui a dit oh, mais appelle Fanny, elle est à Marseille, vous avez trop déliré. Voilà, donc là, elle m'appelle. Et puis, on commence à se faire des petites sessions basse-batte. Et la sauce prend bien, clairement. Ça se passe hyper bien. Et elle, à ce moment-là, donc, elle a déjà le duo avec Morgane Carnet, donc, qui s'appelle Konnichiwa. Et Konnichiwa est déjà passé par leur délire, du coup, c'était d'inviter des gens. Donc, c'est déjà passé par Konnichiwa B avec Nina Garcia. À la guitare, Konnichiwa C avec Olivia Tiemama à la basse et ah bah non attends j'ai oublié un truc A B attends non oui c'est Konnichiwa C c'est Farida Amadou je dis n'importe quoi voilà je sais plus où est passé Olivia du coup elles ont oublié de mettre un moment où, c'est ça et du coup avec moi Konnichiwa D et on essaye enfin premier concert à la Déviation qui est à Marseille, qui a un grand squat avec avec des actions culturelles régulièrement. On fait un premier concert et ça déboîte. Ça veut dire que vraiment on se trouve hyper vite. Il y a pas un moment où ça cherche. Tout est fluide. Il se passe plein de trucs, que ce soit du riff, du punk, de l'impro. Voilà, tout le monde se sent bien, ça circule. Enfin, bref, beaucoup de plaisir. Et les filles, elles cherchaient vraiment ce rapport-là, parce que Morgane, très souvent, dans Konnichiwa, elle a ce rôle un peu de bassiste. Elle cherchait aussi à pouvoir s'extraire de ça et que ça oui. tourne, quoi. Et clairement, ça a hyper bien matché. Du coup, voilà, on a rejoué ensemble depuis. On s'est fait une petite résidence à Poitiers, voilà, où on a eu l'occasion d'enregistrer quelques trucs. Et puis là, on sort de résidence. On était à la Fraternelle à Saint-Claude. Voilà, on s'est fait une semaine de résidence pendant laquelle on a fait un teaser, un enregistrement. C'est pareil, c'est pas des rushés, tout ça. Enfin, à part ce petit morceau-là qu'on a préparé hyper speed avec Céline Granger, la magicienne du son, exprès pour la radio, j'avoue. Hein, ça a été mixé exprès pour cette occasion. Et puis, on a fait, du coup, c'était le jour où les bars, c'est la réouverture, en fait. Donc, on a joué ce soir-là. C'était les premières fois où les gens pouvaient retourner en terrasse, donc autant te dire que les gens étaient chauds, un truc de fou. Ils n'avaient pas vu de musique live depuis hyper longtemps, et du coup tout le monde s'est mis debout et tout le monde a dansé, et c'était super bon, à tel point que la Fraternelle nous réinvite en janvier 2022 pour faire un set totalement dance floor avec DJ set après nous, en mode party, quoi. Voilà.
Ah, super.
Et du coup, ce morceau-là, voilà, il a été enregistré à la Fraternelle, là, il n'y a pas longtemps. C'est déjà un peu la fête. Hein. On peut déjà le mettre en soirée, celui-là, un petit peu, ça fonctionne.
Ouais. Et on avait le projet de faire une émission avec la Fraternelle, d'y aller, en fait.
Ouais, super.
Donc, on les salue.
C'est vraiment un super lieu, quoi.
Et bah oui, j'ai bien l'impression.
Vous allez bien profiter.
Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'il y a des formations ou des projets, comme on dit, dont on n'a pas parlé dans l'émission, parce que tu as de nombreuses collaborations à ton actif, et dont tu aimerais dire quelques mots avant de conclure?
Eh ben, ouais, je joue dans plusieurs projets avec Seb Elzine, du coup.
Ah oui.
Notamment donc avec Anarchist Republic of the, qui est avec les deux MC Joey Salim et Mike Ladd, qui est un projet hip-hop, hybride, noise, impro, voilà, donc bien bien cool, parce que ouais, ça c'est un truc que j'ai pas dit, mais donc moi j'ai grandi dans la cité, et outre la grosse influence que j'ai toujours, grunge, rock de l'adolescence, il y a toujours eu du hip-hop dans mes oreilles, voilà, ouais. Donc ça aussi ça fait partie d'un point d'ancrage assez fort, quoi, pour moi, et du coup ouais, il y a ce groupe-là, et il y a aussi un nouveau projet on a fait un seul concert pour l'instant, voilà, crise sanitaire oblige, c'était juste avant à l'IRCAM, qui est donc avec Hakim Amadouche au mandolute, Seb et puis toujours Thomas Ballarini à la batterie, au DAF, à l'électronique. Et voilà, qui est un projet, là, c'est pareil, hybride, arabo, punko, noisy, trans, techno, enfin voilà, ça va être super quand ça pourra vraiment voir le jour encore. Il y a tellement de super projets qui ont été avortés par ce contexte. Donc voilà, parler de ça, et puis bah sinon, je laisse la surprise, voilà, il se passera des choses, et puis c'est bien de pas tout savoir.
D'accord, alors, est-ce que tu as des dates de concert,
ouais,
par contre, à nous donner?
Alors ça, oui, notamment là, on joue ce samedi 12 juin au Quai Branly, avec le Kogoba Basigi d'Avrisser, qui est donc la même team que Eurythmia pour les Européens, et avec le Kalajula Band, donc, qui est un groupe de 7 femmes, ce qui est d'ailleurs c'est l'unique groupe au Mali que de meufs, de 7 femmes maliennes qui déchirent tout, donc ça va être la grosse stuff au Quai Branly. Puis voilà, ça c'est pour samedi 12 juin. On jouera avec Connie Chaudet le vendredi 25 juin, on retourne à Poitiers, donc qui nous avait invités, et ça s'était super bien passé pour leur festival Bruisme. Donc on joue le 25 juin à Poitiers avec Connie Chaudet. Et puis moi j'aurai une petite date marseillaise, hein, comme quoi il se passe pas grand chose, mais il se passe quand même des fois des trucs, avec Audrey Leroux, qui est saxophoniste, avec qui j'ai pas joué, je pense, depuis je pense, 17 ans. Je pense un truc comme ça. On s'est rencontrés dans un stage d'impro qu'on avait fait ensemble, qui était dirigé par Jérôme Nottinger. On avait super bien accroché. Et là, en fait, justement, c'est la personne de Bifree Productions, Aïda, qui est en contact avec Audrey, qui a voulu organiser ce petit concert d'impro. Voilà, donc on va se retrouver 17 ans après. Je pense que ça fera comme ce que j'ai dit tout à l'heure, comme les grands amis qu'on ne voit pas pendant des années. Et puis quand on les retrouve, on a l'impression qu'on les a quittés hier. Voilà, ce sera un concert d'impro samedi 26 juin à Marseille à 19h.
C'est tout ?
Ouais.
Bon, ben alors moi j'ai deux annonces. L'OVNI, l'orchestre des versions novatrices de l'impossible, est un projet qui rassemble depuis 2019 un grand nombre d'habitants de Seine-Saint-Denis, Saint-Ouen et du nord de Paris autour d'ateliers gratuits de découvertes musicales. Ces ateliers donnent lieu à la création de pièces improvisées par l'ensemble des participants, encadrées par des musiciens professionnels et jouées en public dans des conditions professionnelles. Cette année, l'OVNI est invité à venir jouer au cœur même du Panthéon.
Ah ouais.
Ah ouais. Le Panthéon.
Rien que ça.
Quel plaisir d'aller au Panthéon, tu vois, pour de la musique. Donc c'est samedi 12 juin à 15h. À cette occasion, le Quatuor Umlaut et Joris Rühl interpréteront Calque du compositeur français Karl Naglen, suivi de la pièce Inferno, je ne sais pas.
Inferno, je pense, ouais.
Inferno, ouais. Ouais, de Meryl Hamp.
Ouais.
Et ouais, de la camarade. Meryl. Donc 14h30 accueil du public. Alors c'est une jauge limitée, hein, c'est le Panthéon quoi. Donc réservation indispensable directement sur le site du Panthéon. Donc il faut réserver sa place comme si on voulait voir les morts quoi.
Venez voir les morts, Joris Rühl et Meryl Hamp.
Non mais je sais même pas qui y a au Panthéon, puis je m'en fous quoi. Mais donc faut vraiment réserver sa place pour visiter le Panthéon.
D'accord.
À 15h.
Comme si on faisait une visite.
Voilà, voilà. Y a pas de, j'ai cherché où.
Il y a pas de billetterie pour le concert.
Pas
quoi.
Du tout. Non, faut faire semblant d'aller voir Victor Hugo, je ne sais qui d'autre. donc à 15h, hein, faut prendre le créneau de 15h. Et donc à 15h il y a le concert de l'OVNI, donc cet ensemble avec des amateurs. 15h45. Le Quatuor Umlaut, 16h45 Meryl Hamp et 17h30 la fin des concerts qui nous permettront d'aller à d'autres concerts.
Exactement. Kébranli.
Kébranli. Donc tarif 11,50 € et gratuit pour les chômeurs bénéficiaires du RSA et moins de 25 ans. Je voulais dire quelques mots également du festival Bruisme. Du 24 au 27 juin à Poitiers, aux alentours. Bruisme, c'est 4 jours de musique bancale, mais pas banale, pour oreilles curieuses, flâneuses ou avisées. Donc la programmation, rapidement. Donc jeudi 24 juin à Bacaxi, Annie. Vendredi 25 juin à 18h, Conichaud D.
Ouais, ouais.
Tachycardie Ensemble et Nuit de Tom Almandier et Émilie Scriel, entre autres, ce qu'on avait reçu en début d'année. Samedi 26 juin, Mune, après il y a un pique-nique, notre ami Timothée Coste en solo, Canetal, je ne sais pas ce que c'est, Erwan Salmon et Emmanuel Adno, Electric Vocuila qu'on a également reçu, The Bridge également, et Épiphanie de l'ami Jean-Brice Godet pour terminer la soirée. Dimanche 27 juin, Diesel, puis Bruitre, alors il est question de manger des huîtres, Overview, Body Scan de Julien Chamla et Myotis d'Anthony Laguerre. La semaine prochaine, nous recevons le duo trio Sobres Sordos. Alors c'est de la chanson, mais très 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 particulière. Mm-hmm. Vous verrez, c'est vraiment super.
Yes.
C'est une bonne découverte. Et puis voilà, on termine avec Conicho D. Le titre en morceau.
Du morceau, c'est Chinko.
Chinko, merci beaucoup, Fanny.
Merci à toi.
Et puis à bientôt.
Yes.
À samedi.
Yes.